William Assanvo, bonjour.
Bonjour.
Quels sont les pays côtiers les plus exposés aujourd'hui à la menace djihadiste?
Je pense que tous les pays côtiers sont exposés à cette menace. Il y a effectivement certains qui le sont beaucoup plus que d'autres. Je veux parler de la Côte d'Ivoire ou du Bénin, où il y a déjà eu un certain nombre d'incidents qui ont été enregistrés au cours des derniers mois. Mais je n'irai pas nécessairement jusqu'à dire sur cette base que ce sont les pays qui sont les plus exposés. Il faudrait véritablement, je pense, considérer tous les pays côtiers, tout au moins les pays qui sont frontaliers du Burkina Faso, du Mali, dans une certaine mesure, qui sont concernés par cette menace.
Arrêtons-nous sur le cas de la Côte d'Ivoire. Le mois dernier, 4 soldats sont morts dans le nord-est du pays. 2 attaques avaient été perpétrées fin mars. En juin 2020, c'était 14 soldats qui avaient été tués lors d'une attaque à Kafolo. Comment expliquer cette recrudescence des offensives djihadistes depuis un an maintenant?
Je pense que la multiplication des attaques qu'on a observées dans le nord de la Côte d'Ivoire traduisent une volonté de certains des groupes liés à cette mouvance-là de porter la lutte armée sur le territoire ivoirien. Ça traduit aussi, il me semble, les capacités que ces groupes-là ont développées pour pouvoir porter ce combat sur le territoire ivoirien.
Le parc national de la Comoé est-il aujourd'hui un sanctuaire pour les djihadistes étrangers?
Alors, sanctuaire, c'est peut-être trop dire pour l'instant. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que ces groupes ciblent les zones frontalières, notamment les zones où il y a des forêts de cette nature qui leur offrent un couvert forestier à l'intérieur duquel ils peuvent se réfugier, se replier, mettre en place des camps d'entraînement, des zones de repli, ou même des zones de confort.
Le Bénin est également sous le coup de cette menace djihadiste. Une seule attaque a été recensée à ce jour en 2019 sur le sol béninois, mais le centre de réflexion Klingandel a récemment alerté sur la situation dans 3 régions du nord du pays. Dans ces zones, comme dans le nord de la Côte d'Ivoire, on constate une intensification des conflits communautaires.
Les conflits communautaires, ce sont des conflits qui préexistent à la donne sécuritaire actuelle. Ce sont, on va dire, des dynamiques qui sont traditionnelles dans les sociétés, notamment dans ces zones-là. Ce qui pourrait être inquiétant, c'est justement la capacité qu'ont développée ces groupes-là à exploiter ces conflits locaux-là, en prenant fait et cause pour certaines communautés contre d'autres, mais aussi en jouant le rôle d'arbitre. On a noté aussi que dans certaines zones où les groupes se sont implantés, ça a contribué à geler les conflits. Donc je pense qu'il faudrait penser le rôle ou alors l'interaction entre les groupes extrémistes violents et les conflits locaux de manière aussi large que possible et pas de manière réductrice.
Comment parvenir à contrer cette menace dans ces différents pays, William Assanvo?
Alors, je pense qu'il est important dans chacun des pays concernés de pouvoir identifier toutes les vulnérabilités d'ordre socio-économique, d'ordre sécuritaire, en termes de coexistence entre les communautés, en termes d'inclusion socio-économique. Il est important de pouvoir identifier ces différentes vulnérabilités-là qui, à tous les coups, vont faciliter l'implantation des groupes.
Les États font-ils le nécessaire, selon vous, pour lutter efficacement contre ces groupes?
Les pays côtiers concernés font feu de tout bois pour pouvoir prévenir une expansion de cette menace-là. Il y a bien entendu, et ça concerne tous les pays, le réflexe sécuritaire qu'on a observé. Il y a aussi des mesures qui ont été prises pour renforcer la vigilance et la veille au sein des communautés. Il y a des mécanismes institutionnels qui ont été aussi mis en place pour lutter, prévenir contre l'extrémisme violent. Ça a été le cas au Togo et dans une certaine mesure au Bénin. Il y a des stratégies qui ont été développées dans certains pays comme au Ghana ou qui sont en cours de développement comme en Côte d'Ivoire. Il y a des actions aussi qui sont menées par des ONG pour agir sur les vulnérabilités que j'évoquais précédemment. Il y a aussi bien entendu la coopération bilatérale et multilatérale qui a été mise en œuvre. Donc je pense que de ce point de vue, il y a quand même une réelle prise de conscience qu'on peut noter de la part des pays concernés.
Mais est-ce que la coopération entre les différents pays est suffisante? On a le sentiment, par exemple, qu'entre Ouagadougou et Abidjan, la coopération n'est pas forcément très bonne en raison de tensions politiques entre les deux capitales. Est-ce que c'est aussi votre sentiment?
Alors, la coopération, il faudrait pas la considérer comme un long fleuve tranquille. Il y a toujours des efforts à fournir pour pouvoir la renforcer. Et je pense qu'entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de contentieux et il y a un passif sur certains aspects de la coopération. Mais du point de vue de la lutte contre le terrorisme, je pense qu'il y a une volonté affichée des autorités de ces pays-là de pouvoir collaborer pour contrer cette menace. Je pense qu'il y a des actes à encourager, à renforcer. renforcer malgré les passifs qu'ils pourraient avoir sur d'autres plans.
William Assombo, merci.